la chronique « Je lire » proposée par Henri Landré.
Dans cette chronique « Je lire » sur Jet FM, « Je lire » un livre dont beaucoup de gens ont parlé, puisqu'il a obtenu le prix Goncourt en 2025, c'est le livre de Laurent Mauvignier, « La maison vide », publié aux éditions de Minuit. Évidemment, c'est un livre que j'aurais lu de toute façon, mais c'est peut-être parfois différent de le lire une fois qu'il a obtenu des prix. Et c'est donc un récit familial, presque choral en tout cas, qui s'attache à revenir sur différents aïeux, différentes aïeules de Laurent Mauvignier à partir d'un lieu, à partir d'une maison vide, comme le titre du livre l'indique, à partir du moment où le narrateur, l'auteur, Laurent Mauvignier, se trouve dans cette maison, déplace une commode, ouvre un tiroir, trouve quelques éléments qui notamment disent l'absence d'une de ses aïeules, sa grand-mère, Marguerite, effacée de l'histoire familiale. Alors, il va s'attacher à remonter ce fil, à trouver des indices et à inventer ce qui manque, ce qui se trouve dans les silences, dans les espaces, dans les blancs, dans les manques, dans les fantômes de cette maison vide et de ce récit familial qui a été raconté de manière tout à fait parcellaire aux différentes générations qui se sont succédées jusqu'à Laurent Mauvignier lui-même, jusqu'à cet auteur, qui est un auteur qui a publié déjà beaucoup de livres, notamment aux éditions de Minuit, et qui a une écriture tourbillonnante presque, tant il est capable d'enchâsser un certain nombre d'éléments dans une seule phrase, par virgules interposées, comme on va pouvoir l'entendre dans ce petit extrait. Le livre est divisé en courts chapitres à l'intérieur de grandes parties, et c'est un livre conséquent puisqu'il fait quelque 750 pages et que je n'en suis pour le moment qu'à la page 70, autant vous dire qu'il me reste largement de quoi faire et que l'enquête est loin d'être résolue si jamais il y a vraiment enquête. Mais si je vous propose cette lecture, ce petit chapitre 3, c'est qu'on peut à la fois assez vite comprendre de quoi il s'agit sans avoir le sentiment de manquer quelques éléments et puis surtout, vous allez l'entendre, l'ouverture parle justement de ce processus d'écriture que Laurent Mauvignier a mis en place pour ce livre « La maison vide ». De toutes ces angoisses nocturnes qui lui avaient souvent pourri une vie déjà bien encombrée par le travail, ou même de ces grandes idées qui étaient des programmes, des projets de vie pour les siens et pour lui-même, je ne pourrais jamais dire avec certitude que Firmin les a eus. Ici, je ne fais que des suppositions, des spéculations, du roman. C'est ça, je ne fais que du roman. Mais je crois que si ce que j'écris ici est un monde que je découvre en partie en le rêvant, je ne l'invente pas tout à fait. Je le reconstruis, pièce à pièce, comme une machine d'un autre temps dont on découvre que le mécanisme a pourtant fonctionné un jour et qu'il suffit de le remonter pour qu'il puisse redémarrer. Ce monde, je pars de sa disparition pour le reconstituer. Peut-être à l'aveugle, en prenant trop de liberté, mais avec la conviction que je le fais dans le bon sens, comme à partir d'un fémur fossilisé, le squelette d'un animal préhistorique que personne n'a jamais vu. Maintenant, justement, j'ai l'impression de tout voir. Je pressens une réalité à peine plus palpable qu'un souffle d'air, mais pas moins présente que lorsque celui-ci s'insinue dans vos vêtements. Une réalité qui s'est tissée en moi presque à mon insu. Chaque fil, la composant, étant constitué d'un matériau vivace, la mémoire de voix que j'ai entendues, des voix de femmes, portant dans leur propre mémoire la voix des femmes qui les avaient précédées. Marie-Ernestine, ainsi, a vécu suffisamment longtemps pour avoir entendu les histoires de sa propre mère et les avoir racontées à ma tante, et aussi, à un degré moindre, parce qu'il était un garçon, à mon père. Seul homme dans ce bouche à oreille, mais qui aura transmis les paroles reçues des femmes à la sienne, sa femme, ma mère, de qui je tiens tout ce que lui ne m'a pas dit. De tout ce que la mère de Marie-Ernestine a vécu, de la violence de Firmin à ses élans sexuels, Marie-Ernestine a su autant qu'il y avait à savoir. Sa mère, la minuscule préposée aux confitures et aux chaussettes à repriser, presque en s'excusant, les yeux baissés, la voix presque effacée, transparente, avait avoué tout le mal qu'elle avait à garder en elle, coincée dans sa gorge comme une bête féroce, et, avec des inflexions douces, éteintes, pieuses et honteuses d'elle-même, avait parlé plusieurs fois à sa fille, en la détaillant, de la violence des hommes et, en la minimisant, de l'abnégation des femmes. Marie-Ernestine, donc, après avoir beaucoup entendu, beaucoup écouté, beaucoup laissé de phrases tournoyer dans son esprit et les y avoir abandonnées pour pouvoir, de leur matière retombée, sculpter ses propres mots, a parlé à son tour, mais, contrairement à ce qu'avait fait sa mère avec elle, elle n'a pas transmis ses histoires à sa fille, non, évidemment. Ce n'est pas à ma grand-mère Marguerite que Marie-Ernestine a tout raconté, mais à la fille de cette dernière, ma tante Henriette, qui, plus tard, trop inquiète de voir la mémoire familiale se perdre, a voulu à son tour repasser aux générations suivantes, ma génération, cette patate chaude qu'étaient les histoires familiales. Dès le mi-temps des années 80, 2 ou 3 ans après la mort de mon père, peut-être choqué par la violence de cette mort, et parce qu'elle se racontait sans doute que celle-ci n'était pas sans lien avec leurs histoires familiales, avec leur silence et en particulier ceux planant autour de leur mère, elle avait éprouvé l'envie de nous raconter. Pourtant, les silences autour de Marguerite, elle s'évertura à les prolonger, en feignant de croire qu'elle en parle, noyant tout ce qu'elle aurait pu en dire sous d'autres mots, préférant nous déblatérer, à mes frères et sœurs, à mes cousines et à moi, tout ce qu'elle avait entendu par sa grand-mère Marie-Ernestine, y compris des choses que nous n'aurions jamais dû entendre, des histoires de quasi-viols conjugaux que la mère de Marie-Ernestine aurait subies, n'épargnant pas les détails scabreux, laissant, sans s'en rendre compte, nos imaginations juvéniles s'échauffer. Henriette débalança en touillant le morceau de sucre dans son escafé tiède pendant des minutes entières, sans y prêter attention, tenant sa cuillère comme si elle s'accrochait au manche à balai d'un vieil avion de chasse. Henriette a voulu dire ce qu'elle tenait de Marie-Ernestine parce que mon père était mort et que, restant la dernière dépositaire de leur histoire commune, de cette filiation dont l'héritage lui pesait trop, elle avait sans doute besoin de vider un sac devenu trop lourd pour elle. Ainsi, elle racontait les histoires familiales avec plaisir et nécessité. Quand on allait la voir, jusqu'à l'adolescence, dans sa grande maison, dont je n'ai jamais connu que la cuisine aux carreaux de faïence jaune paille et l'immense jardin herbeux en pente qui descendait vers 2 grands arbres, chêne ou platane, dont les branches servaient à suspendre une balançoire, une corde d'un bleu électrique très rêche, dont le contact avait quelque chose de rassurant et de puissant. Même maintenant qu'elle est vieille, ma tante Henriette aime passionnément parler de sa grand-mère, comme elle rechigne à parler de sa mère, prétextant que cette dernière était morte bien avant Marie-Ernestine, ce qui est faux, puisque Marguerite meurt en 1954 et sa mère 5 ans plus tôt, en 1949. Henriette s'obstine à dire que de Marguerite elle ne sait plus rien, qu'elle a tout oublié, ou qu'il lui reste si peu que c'est inutile d'en parler alors que, conclut-elle, elle se souvient de Marie-Ernestine comme si c'était hier. Et cette Marie-Ernestine dont elle se souvient comme si c'était hier, c'est l'aride, la noire vêtue, sèche et sévère. À l'époque, Marie-Ernestine avait perdu depuis longtemps sa joie et son envie de cracher dans les citernes avec les fils des paysans. L'envie de se confier, elle y avait donc cédé souvent, comme l'avait fait sa propre mère. Par la voix de sa petite fille Henriette, elle a transmis ce qu'elle a pu, comme elle l'a fait aussi, mais cette fois probablement sans le savoir, par la voix de ma mère, qui m'a répété les mots qu'elle-même tenait de mon père, qu'il avait dû lui confier alors qu'ils étaient encore tous les deux très jeunes, peut-être même pas mariés, et lui pas encore parti pour l'Algérie. Toutes ces voix, ce sont les mots à peine transformés de Marie-Ernestine qui sont venus jusqu'à moi. Je les accueille. Je laisse grandir et se multiplier les images et les odeurs, les secrets qu'ils contiennent. Je les laisse inventer leur histoire. Et c'est pour cette raison qu'il me semble si facile de voir Marie-Ernestine maintenant, ici, retrouvant son enfance quand je la vois, oui, assez parfaitement je crois, enfant de 11 ans faisant, à l'automne, ses premiers pas au couvent, ou même, dès le mois d'août, quand, en découvrant le couvent où on l'avait emmenée une première fois pour la présenter à la mère supérieure, elle avait été étourdie d'admiration. Firmin, en père avisé, savait que les familles, même dévotes, n'étaient que des profanes. On était en 1896. Seules les maisons religieuses remplissaient les conditions pour l'éducation d'une fillette comme la sienne. Et s'il avait bien dans l'idée que Marie-Ernestine ne finirait pas au couvent, mais dans le lit d'un notable choisi par ses soins, il fallait quand même la préparer un peu. Et la chère petite boule d'or avait été formidable de bout en bout, embrassant la carrière comme on entre dans un conte de fées par « Il était une fois ». laissant les portes du couvent s'ouvrir comme autant de promesses d'un avenir merveilleux. Elle, qui n'avait jamais rien vu que sa maison et les champs, les maisonnettes des fermiers qui travaillaient pour son père, s'était retrouvée soudain, un jour d'août, loin de chez elle, là où l'on entendait la rumeur de la grande ville de l'autre côté d'un fleuve si large qu'elle l'aurait pris pour la mer si on ne lui avait pas dit que celle-ci n'était pas de ce côté, mais bien plus loin au bout du fleuve. Elle avait retenu sa respiration, avait mesuré la gravité de ses parents, leur air fermé, leur silence, on pourrait dire, d'un mot qui pour eux aurait été celui d'une langue étrangère, un mot pour les livres, pour les autres, dont ils n'auraient jamais admis la réalité dans leur propre vie, leur componction. Marie-Ernestine avait éprouvé une certaine crainte à les voir si sérieusement engagés, les habits du dimanche, les boutons dorés, les manteaux malgré la chaleur de la fin d'été, et elle s'était demandé ce qui méritait une telle attention, car elle savait que ce n'était pas elle que Dieu appelait auprès de lui, mais son grand frère Paul. Si elle était ici, c'était sans doute pour réparer d'obscures fautes commises par elle ne savait pas qui, et elle voulait être la plus obéissante en se répétant qu'elle mettrait toute son ardeur à se faire bien voir de Dieu et de ses bonnes sœurs. Elle se sentait importante et n'avait pas peur, non, elle était seulement impressionnée et émue. Elle regardait ses parents et soudain, il lui avait semblé que tous les deux avaient diminué d'importance, qu'ils étaient moins grands et plus timorés qu'elle ne les avait jamais vus, comme des enfants, comme elle. Elle était surprise et aussi un peu inquiète. Pour la première fois, elle avait craint de ne pas les trouver assez solides face à cette splendeur qui s'étalait devant eux, ses parents lui apparaissant étonnamment gauches, rugueux, presque pauvres, mal dégrossis ou maladroits dans leur corps et dans leurs gestes, dans la délicate lumière du couvent. Mais il est vrai que, cette fois, tout lui paraissait plus grand, plus lumineux, plus beau, mais aussi plus redoutablement indifférent à eux. Tous les trois devait ressembler à d'obscures figures dénuées d'intelligence et de beauté, ou disons de finesse. Alors, tout revenait dans son esprit avec une cruauté qu'elle n'arrivait pas à déchiffrer, et c'était comme si elle découvrait, pour la première fois, les haussements d'épaules de son père, ses ongles noirs et cassés par le travail, ses crachats dans la cour, ses coups de pied au chien, ses mains épaisses, son cou très court, les souffles de dépit de sa mère et cette façon sournoise qu'elle avait de résister à Firmin, son sourire pincé et cette marque d'amertume et de méchanceté que l'enfant croyait y lire, sa préciosité feinte et puis surtout ce charabia des vieux couples qui ne se supportent plus et ne peuvent s'empêcher de se donner en spectacle à qui a le malheur d'en être le témoin obligé, c'est-à-dire elle, Marie-Ernestine, qui du haut de ses 11 ans percevait l'impatience et l'agacement de ces deux adultes comme s'ils étaient des étrangers, improbable et repoussant. Une fois arrivé près du couvent, ça avait pris un certain temps pour qu'on se décide à se faire annoncer. On avait tergiversé, attendu, on avait redouté d'être trop en avance, puis trop en retard. Enfin, on était entré dans la cour, et Marie-Ernestine s'en souviendrait toute sa vie. Oui, ce serait toute sa vie comme une marque lumineuse plantée en plein milieu du cœur tendre de la fillette. Une cour immense et presque blanche, carrée, comme celle des châteaux. On avait suivi une sorte de poterne dans un monument gothique, puis, dans une vieille tour, on était monté en file indienne par un étroit escalier de pierre avant de se retrouver dans un vaste salon au parquet poli comme un miroir. De ce détail, Marie-Ernestine se souviendrait plus que tout. Et c'est par lui, à partir de lui, que, souvent, elle pourrait évoquer cette époque. Le parquet poli comme un miroir, le craquement des pas sur le bois, le reflet des pieds de chaise, les lourds meubles de bois sombre et, apparaissant au travers de 3 grandes baies ouvertes sur l'extérieur, des jardins, le ciel bleu, des haies de charme taillées en taupière, fuyant à perte de vue les reflets sur les murs d'un jaune citron qui dévorait tout. C'est un extrait. Le chapitre 3 de la première partie du livre « La maison vide » de Laurent Mauvignier, publié aux éditions de Minuit à la rentrée 2025. 25 € pour 750 pages d'un récit familial et d'une enquête autour d'une sorte de disparition. Comme vous l'aurez peut-être compris, et c'est évidemment le livre qui a obtenu le prix Goncourt en 2025. Thank you.
The house was built by my grandfather's hand before I was accused of theft. The boat was sold for 80,000 pounds. Work is now at an end. It is rumor that he is gone. It is rumor that he is gone. The mountain tops were covered in snow. Dinner wasn't served until 9. The windows were painted 3 weeks ago, and we closed them one by one. The work is now at an end. The work is now at an end. I stood accused of theft.